Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Ce soir, on fait un autre voyage dans le temps, et oui, comme on en a pris l'habitude depuis un certain temps déjà, en tout cas pour ceux et celles qui me suivent depuis le début des balados sur la série Non élucidée, et qui dit voyage dans le temps, mais on se rapproche tranquillement, mais vraiment à pas de tortue vers notre époque à nous, parce que oui, c'est une condition que je me suis imposée. Et que je vous ai imposé plutôt, parce que j'aurais pu parler de cas plus célèbres et plus récents de nous, mais je tenais absolument, et je le répète, à partir de, à commencer dans le fond, vers les plus anciens, et en se rapprochant vers nous tranquillement pour ce qui est des cas non élucidés. Pourquoi? Ben parce que je pense que ça aide à comprendre l'évolution, premièrement, de ce type de crime-là. Oui, aussi de voir qu'il y a des types d'homicides non résolus qui existent depuis longtemps. Donc, c'est pas, il n'y a pas de surprise dans ça, dans certains types et tout ça. Donc, voilà, c'est un peu pour ça. Et je pense que ça qu'il vaut la peine aussi d'en étudier le plus possible pour comprendre, un peu comme un vrai enquêteur ferait. Plus qu'un enquêteur a vu de dossiers au cours de sa carrière, ben je pense que plus il est expérimenté, et plus il est connaissant, plus il en sait. C'est la même chose pour nous. Il faut juste se donner la peine, dans le fond, parce que notre pire ennemi, c'est la paresse. Oui, la paresse est dans le milieu documentaire. C'est même souligné, et ça existe, la paresse documentaire. Oui. Et je pense que plusieurs en souffrent. Par exemple, c'est bien plus facile d'aller voir 2-3 phrases sur Wikipédia et de dire « Ah, maintenant, je sais de quoi je parle! » Évidemment, j'ai vu qu'est-ce que c'était, telle affaire. C'est bien plus facile et ça prend quelques secondes à peine, plutôt que de se déplacer aux archives nationales, d'aller consulter le procès au complet, de le numériser. Ça peut prendre des mois et même des années, comme je l'ai fait avec l'affaire de Saut au cochon, dont on va reparler bientôt beaucoup plus en détail, parce que mon troisième tome du livre Saut au cochon s'en vient bientôt, ce printemps. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus long. Ça m'a pris depuis 2014, au fond. Puis voyez-vous, là, je vais compléter la trilogie en 2023, donc c'est presque 10 ans. Mais là, c'est sûr que c'est une affaire exceptionnelle, puis c'était très volumineux, contrairement à d'autres causes qui sont un petit peu plus raisonnables, à 1000 pages, par exemple. Mais voilà, c'est le côté paresse. Donc, c'est un peu ce qui me fait penser aussi, il y a beaucoup de... Je veux pas critiquer les jeunes, mais en même temps, je le fais aussi. Mais bon, c'est une vérité. C'est beaucoup plus facile. Même moi, le premier, je me fais attraper. C'est beaucoup plus facile d'écouter un documentaire assis dans le salon que de se déplacer, de lire un livre au complet. Mais vous allez en apprendre beaucoup plus dans le livre. Il y a des citations et tout ça. Et dans le contenu d'un livre mis à l'écran, ce serait, mon dos, des dizaines et des dizaines d'heures, si ce n'est pas des centaines d'heures. Donc, vous allez vous enrichir beaucoup plus, c'est beaucoup plus recherché aussi. Et il y a moins de contraintes, parce que quand on fait un documentaire, il y a tellement de personnes qui interviennent dans ça que il y a même des comédiens aussi, hein? Fait que tout le monde veut donner l'orientation qu'il veut au documentaire ou à une série quelconque. Donc, à un moment donné, ça devient à peu près n'importe quoi. Mais on va retourner à nos moutons, ou plutôt je vais retourner à mes moutons. C'est moi qui vous éloigne encore une fois. Et je ne ferais pas un bon berger. Hein. Moi, j'arrête pas de vous éloigner sur des pistes à gauche et à droite et tout ça. Donc, ce soir, en janvier 1866, c'est le crime qui a coûté la vie à Marie-Aglaé Babin, une jeune femme de 28 ans. Et ce qu'il y a de particulier avec Marie-Aglaé, c'est qu'elle était handicapée. Elle ne pouvait pas se déplacer toute seule. Et ce qui est curieux, c'est que son cadavre a été retrouvé en décomposition avancée le 25 juin 1866, près de la rivière du Lièvre à Buckingham. Elle était disparue depuis janvier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces mois-là? C'est assez étonnant. Donc, comme on le disait, Marie Aglaé était infirme, incapable de se déplacer toute seule. Donc, il a fallu qu'elle se rende jusqu'à ce lieu-là d'une certaine façon. Est-ce que c'est par son agresseur? Là, il y a plein de questions qui nous viennent. L'agression s'est passée où? Comment aussi? Parce que là, on n'a pas parlé des résultats de l'autopsie ou des blessures ou quoi que ce soit. Donc, si on revient quelques mois plus tôt, en janvier 1866, en même temps qu'elle disparaissait, son frère Joseph quittait pour les États-Unis. Donc, ça coïncidait, sa disparition coïncidait avec le départ de son frère Joseph pour les States, comme on disait dans le temps. Et le même soir, il y avait aussi eu lieu, une dispute était survenue entre le révérend Jérémy Babin et Joseph. Donc, il est le frère de Marie Aglaé. Et ce qu'on raconte, c'est que Joseph était venu voir le révérend pour lui confier la garde de sa sœur handicapée. Parce que, bon, peut-être qu'il voulait prendre congé un peu. Il s'en occupait, on donne pas ce détail-là. Mais bon, bref, je spécule un petit peu quand même, là. Juste pour essayer de comprendre le contexte. Donc, il en prenait soin peut-être depuis un certain temps. Puis là, il voulait un certain congé peut-être, là. Mais le pasteur de la mission Saint-Stéphane ne voulait pas s'en occuper. Donc, lui, il ne voulait rien savoir de l'handicapé. Il y a un article qui a été publié dans le Droit, le journal Le Droit, le 17 novembre 2007, et c'est signé par Mathieu Bélanger, qui, lui, souligne qu'il y a très peu de gens dans le village qui avaient été mis au courant même de l'existence de la jeune femme. Donc, ça ajoute au mystère. On ne savait même pas... Tu sais, d'habitude, dans les petits villages, les nouvelles vont vite, hein? Même très vite pour ceux qui habitent en région ou qui y travaillent. Donc, on le sait, hein? C'est la moindre petite nouvelle, à moins que ce soit hyper banal. Normalement, les nouvelles vont très, très vite. Donc, avant qu'on la retrouve, on ne savait pas pratiquement qui elle était. Et c'est justement là que l'histoire a éclaté de quand on l'a retrouvée. Et on spécifie que quand on l'a retrouvée, elle flottait entre des billes de bois. On a vu précédemment, surtout dans la région de Trois-Rivières, là, le fameux bois de flottage. C'est surtout justement là avec le meurtre de Mary Richardson. J'avais oublié de le spécifier l'autre fois, mais il faut comprendre que dans les années 1850, à peu près, au début de l'ère industrielle, Trois-Rivières était devenue une plaque tournante. Là, c'était peut-être pas aussi important que Montréal ou Québec, mais ces Trois-Rivières étaient devenus très gros, là. C'était quelque chose, donc il y avait beaucoup d'achalandage et tout ça. Pas plus qu'aujourd'hui, mais pour l'époque, là, c'était quand même assez impressionnant. Mais là, oubliez ça, on parle pas de Trois-Rivières, on parle de Buckingham. C'était juste une parenthèse là, avec le bois de flottage. Donc, il y avait du bois de flottage aussi dans cette région-là. Il y avait des industries, j'imagine, et tout ça. Ce qu'apporte aussi le texte de M. Bélanger, c'est quand même assez intéressant. Il apporte une hypothèse assez... que peut-être ça pourrait être ça. C'est que lui, il parle d'Elisabeth Abbott, donc la femme du révérend Babin. Alors, vous aurez compris que, bon, oui, les curés n'avaient pas le droit de se marier, mais les révérends, oui, les pasteurs aussi. Elle, au moment où ça se passait, tout ça, elle était enceinte de son premier enfant. Et à l'époque, il y avait certaines croyances, et là, parlez-moi pas trop des croyances, parce que il y a des croyances, justement, qui ont servi à toutes sortes de mausus de conneries, parce que c'était souvent n'importe quoi. Mais avant de me fâcher, je vais dire, il y avait des croyances absurdes à cette époque-là qui racontaient que des personnes aux physiques différents, c'est-à-dire les handicapés. Donc aujourd'hui, on le sait, hein, on est au courant de plusieurs maladies, la dystrophie musculaire, peu importe, là, les mauvaises conditions, développement au cerveau, peu importe. On sait qu'il y a beaucoup d'handicapés qui ont toute leur tête et qui ont des anomalies et tout ça, mais qui sont très conscients. Bon, bref, il y a une différence à faire entre la caboche et le physique. Donc, le physique peut être restreint, mais la caboche peut fonctionner très bien, hein? Même, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Dans mes dans mes clients, pas mes clients, mais dans mon auditoire, il y en a peut-être aussi, là. Je peux avoir des gens de tous les milieux. Alors, voilà. Donc, Marie-Aglaé pouvait être tout à fait normale, là, même si elle était handicapée. Et surtout, c'est qu'on dit, on insiste là-dessus sur le fait qu'elle soit handicapée, mais on n'a pas vraiment les détails de son handicap. En tout cas, c'est sûr que je n'ai pas lu tout le livre, là, il y a un historien qui s'est attaqué à ça, on va le voir après, là. Mais bon, bref, il y avait des croyances qui pensaient que c'était contagieux, ces affaires-là. Hein? Alors, si c'est ça, ben c'est possible qu'à un moment donné, le révérend Babin et puis sa femme ils ont dit, ben ouais, pour le bien de notre enfant, puis nous autres, là, on est obligés de la garder, elle-là, là. Ben garde, un petit accident, c'est vite arrivé. Quoi qu'il en soit, Marie Aglaé, un coup qu'on l'a découvert et tout ça, elle a été inhumée sans cérémonie, rien de moins. C'est encore une fois l'anonymat qui se poursuit. Le village ne la connaissait pas, puis là, on l'enterre encore dans l'anonymat. Mais, oh, il y a quelqu'un qui était observateur, et cette personne-là, c'était le fossoyeur. Oui. Le fossoyeur, lui, au moment de l'enterrer, il a constaté qu'elle avait les pieds difformes. C'est une information qui a été suffisante pour convaincre le coroner de procéder à une exhumation par la suite. Ah! Donc, l'information s'est rendue comment jusqu'aux oreilles du coroner, je ne sais pas, mais elle a fini par se rendre. Et on l'a déterré à nouveau. Et c'est là qu'on l'a examiné de plus près. Et la cause du décès a alors été attribuée à la noyade. Alors, si elle ne pouvait pas se déplacer, qu'est-ce qu'elle faisait dans l'eau? Hein? Pourquoi qu'elle s'est noyée? À moins qu'elle se soit noyée dans un bol à main, parce que là, on ne parle pas de toilette dans ce temps-là. Il n'y avait pas de toilette dans les maisons québécoises encore. Mais comment noyer? Ça aussi, ça peut être dans un bain, ça peut être dans un grand bol ou ça peut être dans la rivière. Mais là, on est au mois de janvier, au moment où elle disparaît. Il ne faut pas l'oublier. Il aurait fallu casser la glace, peut-être, pour la noyer. Ou. Faut dire aussi que les rivières en hiver ne gèlent pas toutes et où ils vont geler par partie. Moi, j'ai connu des rivières que j'ai marché dessus puis que étaient super solides. Puis deux, trois pas plus loin, on voyait l'eau, il y avait des trous. Donc, selon les courants, ça ne gèle pas égal. Donc, on revient, puisqu'elle était incapable de se déplacer, bien, à ce moment-là, le coroner, lui, a conclu que c'était un assassinat. Évidemment, ben celui qui a été visé, c'est celui qui était supposé de la garder, donc le révérend Jérémy Babin. Et lui, pour sa défense, ben, il a affirmé avoir confié à sa sœur à un certain Moïse Ledoux. Rien de moins. Mais ce dernier est demeuré introuvable, donc on se lançait la balle. Hein? On l'a vu des fois dans certains cas que c'est pas rare. Les criminels entre eux se lancent la balle. Alors, voilà, mais là, Moïse Ledoux, c'était qui ça? Est-ce que lui, il s'en est débarrassé de Marie-Aglaé, puis il est parti après, puis bon, bref. Le pasteur, il a eu un procès, il a eu droit à un procès qui s'est ouvert en janvier 1867 à Aylmer, mais il a été acquitté, faute de preuves, évidemment. En 1869, après la mort de sa femme, le révérend a confié ses enfants à ses beaux-parents, avant de disparaître lui aussi aux États-Unis. Et c'est là qu'il est décédé en 1913, happé par une voiture en Ohio. Cette histoire-là, je la termine par une mention qui a été faite en 2007. L'historien Raymond Ouimet, qui est auteur, ils ont écrit quelques livres là, quand même intéressants là, sur certains condamnés à mort et tout ça. Lui a affirmé dans un livre avoir retrouvé la trace de Moïse Ledoux et avoir élucidé l'affaire. Ah oui? Ah bon? Mais pour avoir élucidé une affaire, il faut pas seulement. Je pense qu'il y en a qui croient au miracle. J'en ai rencontré quelques-uns, dont un certain bonhomme là, dans l'affaire Dupont qui pensait tout résoudre avec un livre mal écrit, comme si c'était de niveau secondaire, là, bref. Mais ça fait encore boule de neige dans ça, parce qu'évidemment, les théories du complot ont toujours leurs sympathisants, comme on dit. C'est malheureux. Mais bon, je pense que M. Ouimet est allé un peu fort là-dessus en disant qu'il avait résolu le crime. un crime de 141 ans à peu près. C'est pas comme ça qu'on résout les crimes, malheureusement. Il faut apporter la preuve devant un juge. Donc, il faudrait un procès et un verdict. C'est ce qui était à peu près impossible après un siècle et demi. Alors, il faut être raisonnable. Il a pu trouver une piste importante, mais de là à résoudre un crime, de dire « Ah, c'est absolument ça », non, désolé, moi, je n'embarque pas dans ça. Et il y a un journaliste qui m'a fait la surprise aussi, il y a quelques années, qui a dit « Hey, j'ai résolu un crime, moi! » »« Ah ouais? Comment ça? Raconte-moi ça! » Mais finalement, il avait trouvé juste une piste intéressante, oui, mais ça reste une piste. Elle n'a pas débouché sur d'autres choses par la suite. Donc, soyez prudent dans l'interprétation des mots. Même moi, des fois, là, en faisant mes balados, je peux me mêler dans certains mots. On peut dire accusé, puis... Ou des fois, je le dis, puis je pense avoir dit un autre mot, mais il faut faire attention, vraiment, dans le choix des mots et surtout les expressions. Mais je pense pas que vous me verrez dire que j'ai résolu un crime ou j'ai trouvé... Non, on peut trouver une piste importante. Je l'ai fait avec l'affaire Blanche-Garneau. J'ai trouvé quelques pistes vraiment intéressantes. J'ai vraiment tout fouillé. J'ai tout donné dans cette affaire-là. Mais c'est ce qui m'a d'ailleurs fait comprendre que non, des crimes anciens, on peut trouver de nouvelles choses, ça oui. Comme on dit, de la viande autour de l'os, là, vraiment pour comprendre un peu plus le contexte, parce que le contexte est tellement, mais tellement important dans la reconstitution des crimes. Parce que bon, surtout les époques viennent jouer aussi. Il faut vraiment se plonger à fond. C'est un exercice mental exigeant. Mais si on veut vraiment se donner la peine, faut pas rester, admettons qu'on étudie l'affaire Blanche-Garneau en 1920, faut pas rester avec nos yeux de 2023, faut vraiment, vraiment se plonger le plus possible dans l'époque où ça s'est passé, pour essayer de comprendre et essayer de réfléchir. Il faut réfléchir comme un citoyen de cette époque-là. Par exemple, vous pouvez pas dire « Ah, ben elle a peut-être pris le taxi », non, ou oui, les taxis existaient, mais peut-être plus en calèche. Mais finalement, mon exemple n'est peut-être pas bon parce que les taxis existaient aussi en automobile. Mais où vous ne pouvez pas dire « Ah, elle est entrée dans un café Internet, là, ça ne fonctionne pas. Elle a pris son cellulaire, par exemple, pour appeler la police. » Ça non plus, ça ne marche pas. Il n'y a pas juste les éléments de la technologie aussi. Il y a certains points de la mentalité de l'époque. Comme par exemple les filles qui sortaient toutes seules le soir, des choses comme ça. Donc, il faut comprendre est-ce que ça se faisait, est-ce que c'était tabou. Donc, voilà, le contexte est tellement important. Mais tout ça pour dire que Marie-Aglaé Babin, tant qu'à moi, c'est non résolu. Oui, il y a eu un procès, mais le pasteur Babin a été acquitté. Alors, voilà, ça va rester à jamais non résolu.